C'est vraiment un bel article. Et puis, on apprend dans l'article que le Parti québécois, c'était pas évident. C'était pas ça que tout le monde voulait. C'était été la première chicane aussi du Parti québécois au moment de sa fondation parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le nom. Alors, voilà. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se donne rendez-vous lundi pour une autre édition des Matins éphémères.
Mélanie Fleurant avec vous pour passer la prochaine heure. Et comme vous l'aurez compris, dans l'émission de Caroline aux Matins éphémères, j'en ai parlé un petit peu, on va aborder le thème de la famille. De plus en plus, on me demande de parler des familles, puis ça me fait plaisir aussi. Famille. On parle des parents, des enfants souvent, en fait. On va aborder différentes façons aussi d'avoir une famille au cours de l'année. Mais ce matin, on va parler avec une coach et qui est aussi bachelière en psychoéducation, mais coach familiale pour La Lanterne. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Laurie Boisvert, bonjour.
Bonjour.
Je vais te demander de te rapprocher. Coach familiale. Quand est-ce qu'on fait appel à une coach familiale? Puis, pourquoi je ferais affaire avec une coach familiale? J'ai élevé mes enfants, moi. Est-ce que tu l'entends souvent, ça?
Bien, généralement, quand les gens m'appellent, c'est parce qu'ils ont déjà fait le processus. Donc, ils sont prêts à obtenir de l'aide. Généralement, les gens qui vont m'appeler ont fait un processus avant. Donc, on testait plusieurs interventions, on fait appel parfois à d'autres intervenants. Et il n'y a pas nécessairement eu de résultats ou c'était pas finalement ce qu'ils souhaitaient avoir comme accompagnement. Mm-hmm. Donc, généralement, quand les gens vont me contacter, c'est qu'ils sont déjà prêts à recevoir mon accompagnement. Donc.
Mais quand tu dis ce que tu fais comme coach familial, qu'est-ce que tu entends comme commentaire? Est-ce qu'il y en a qui sont réticents, qui disent « Bon, OK, la mode des coachs est revenue. » Ou, par exemple, « Bon, là, on est rendu dans la famille. Il y a les coachs professionnels, les coachs de famille à cette heure. » Est-ce que tu entends ça? Ou non, sont très ouverts à ça? Au contraire, c'est des gens qui sont ouverts?
Je vous dirais que généralement, le parent qui va me contacter, lui, est déjà sûr de son affaire. Okay. La plupart du temps. Je vous cacherai pas que souvent, c'est la mère qui va me contacter. souvent, les papas sont plus réticents, justement, à voir quelqu'un entrer dans la maison. C'est pas généralisé, mais ça arrive quand même régulièrement. Donc, c'est plus de ce côté-là que je devrais plus convaincre, finalement, du type d'accompagnement que je vais leur offrir. Leur dire que ça peut être aidant pour eux, mais ils s'en rendent compte assez rapidement, je vous dirais.
Mais j'ai dit tantôt, justement, avec Caroline, en fin de son émission, comme quoi qu'il y avait plus de femmes qui étaient coachs familiales que d'hommes. Je me trompe-tu?
Non,
c'est pas mal plus un rôle de femme.
Effectivement.
C'est bizarrement, ça donne comme ça, je pense.
Oui, mais au niveau de l'intervention, au niveau familial, souvent, on va retrouver déjà plus de femmes. Donc, c'est la continuité de ça, là.
OK. Mm. Qu'est-ce que ça fait exactement une coach? On va décortiquer ça avec toi. J'aimerais ça qu'on comprenne ton rôle. Comment tu entres dans les familles? Pour quelles raisons on va t'appeler, tout ça? Donc, quand est-ce qu'on fait appel? Là, tu l'as dit un petit peu, bon, quand il y a des crises un petit peu familiales, tout ça, c'est...
Il y a plein de raisons, finalement, pour contacter un coach familial. Je vous dirais généralement parce que les gens, oui, sont à court de solutions au départ. Souvent, ce sont des problèmes qui sont présents depuis longtemps, qui traînent. Donc, les gens sont prêts à faire un changement, à essayer quelque chose de différent, hein, parce que le coaching familial, c'est une approche qui est un peu alternative à ce qu'on peut trouver dans le système public. Mm-hmm. Donc, ils sont prêts, justement, à faire cette démarche-là. Généralement, les gens aussi vont me contacter parce que il y a une situation qui a fait empirer la situation et les les gens se disent « mais je peux plus vivre comme ça » ou « j'ai l'impression que ça va se dégrader, donc faut absolument faire quelque chose ». Souvent, c'est en lien avec un ultimatum. Ça peut être un problème au niveau du couple, les conjoints sont pas capables de s'entendre, puis ils vont se dire « ça va finir par une séparation ». Ça peut être l'école ou la garderie aussi qui va mettre un ultimatum en disant « ben il faut faire quelque chose, sinon on peut pas garder votre enfant ».
Ah oui, à ce point-là. Ouais. Parce que je me disais, le réflexe premier, on va aller vers un pédopsychologue, un psychologue directement aussi. Mais une coach, c'est, comme je disais, c'est moins fréquent qu'on entend. Ben, de plus en plus, là, avec le réseau Nanny Secours, je vais le dire comme... Le réseau Nanny Secours, désolée, je m'excuse, puis on va en parler justement un peu plus tard, qui regroupe toutes les coachs familiales qui peuvent exister au Québec. Là. C'est vraiment un beau réseau, on va en parler plus tard. Mais c'est vrai, est-ce que c'est le compromis? Parce que aller vers un psychologue, c'est comme trop officiel, on va aller vers une coach, ça a l'air comme moins grave notre affaire ou... Tu ris, mais,
peut-être que pour certains, c'est d'aller vers un professionnel qui est reconnu, ou est-ce qu'on s'entend, ce que c'est plus stérilisé son affaire. Mais pour certains, ça peut être plus difficile. Le coaching familial peut être vu comme une approche qui est plus douce, disons. Ouais. Je vous dirais que la différence, c'est que nous, on va pas faire de diagnostic. Si les gens vont voir un psychologue, un neuropsychologue, s'attendent peut-être à avoir un diagnostic en bout de la ligne. Mm-hmm. Nous, notre travail, c'est vraiment de fonctionner avec ce qui est actuellement. C'est une approche qui est à court, moyen, long terme, qui est centrée sur les solutions. Okay. Donc, peu importe ce qui est arrivé dans le passé, mais on va faire avec, puis on va transformer nos perceptions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir mettre des moyens en place puis de faciliter les choses pour tout le monde, d'outiller tout le monde à la maison.
Mm-hmm. Puis là, j'entends déjà des auditrices, des auditeurs nous dire « bon, elle connaît pas mon enfant, moi je le connais ».
Tout à fait.
Tu répondrais quoi?
Je suis d'accord.
Comment elle va me dire comment élever mon enfant? Elle ne connaît pas.
Tout à fait. Le meilleur expert de l'enfant, c'est le parent. Puis le travail du coach, c'est ça. On n'est pas des experts ni des spécialistes. On est des accompagnants et des guides pour les familles. On les accompagne à trouver les meilleures solutions en fonction de leur situation. On va entendre ce qu'ils ont à nous dire, nous exposer leur situation. C'est certain qu'on a une base au niveau de l'intervention, puis on a une bonne idée de ce qui pourrait les aider. On va leur faire des suggestions. Par contre, c'est eux qui vont choisir quels sont les moyens qu'ils veulent mettre en application. Puis on les accompagne à le mettre en application, justement, puis à faire en sorte que les interventions soient fonctionnelles, puis donnent des résultats là, dans un court moyen terme.
Vous êtes là aussi comme pour être une conscience un peu. Est-ce que je comprends? C'est vous poser les questions qui se poseraient peut-être pas dans les situations concrètes. C'est ce
tout
que
à fait. On va susciter la réflexion chez le parent. Hein? D'aller parler d'une situation à la maison, ça leur permet de prendre un recul sur leur situation. Hein? Souvent, on vit une situation difficile, on a le nez collé sur l'arbre, c'est difficile de voir l'amplitude de la forêt qui est autour. On va aller justement permettre aux parents de prendre du recul sur la situation qui est problématique, qui leur fait vivre beaucoup, beaucoup d'émotions. On va essayer de regarder toutes les possibilités, finalement.
Donc, et comment ça se passe quand vous... là, admettons, on vous appelle, il y a une situation X, puis on va parler des raisons plus tard en retour de pause musicale. Mais avant ça... comment ça se passe, la structure d'une rencontre? Comment vous arrivez chez nous, on vous rencontre, on vous parle par téléphone, par Skype, ou comment ça fonctionne?
Tout est possible, toutes ces réponses sont bonnes.
Bon.
Donc, première des choses, c'est certain qu'on va se parler au téléphone, donc pouvoir prendre le pouls de la situation exactement. Donc, avoir une petite idée de ce qui va se passer. Nous, on privilégie toujours en coaching familial d'aller observer à domicile. Il y a toujours d'autres possibilités, mais on peut aller à la maison. Donc, nous, les rencontres, c'est pas dans un bureau, c'est à la maison. Mm-hmm. Donc, ça permet d'observer les dynamiques familiales, de voir les enfants dans leur milieu naturel.
Vous placez-vous dans un coin de la place, puis regardez ça?
Non,
pas parce que là, ça me faisait penser à l'émission qu'il y avait.
Super Nanny.
Oui, ça me faisait penser à ça. Elle se place-tu dans un coin, puis elle observe tout ce qui se passe, puis les comportements des parents avec les enfants?
Non,
c'est ça
non.
Fait?
Non, non, mais de toute façon, je pense que ce serait trop malaisant, puis les gens seraient pas à l'aise. Donc, la première rencontre, ça se fait à domicile, mais ça se fait autour de la table, on discute de la situation. Les enfants peuvent...
Sont-tu là?
Les enfants, généralement, demandent à ce qu'ils soient présents. On n'oblige pas les enfants à rester à la table puis à participer activement à la rencontre. Ça dépend vraiment de leur intérêt.
Ils sont souvent curieux de voir c'est qui, elle.
Tout à fait.
Qu'est-ce que fait là?
Ils veulent voir tout ce qui se passe. Ouais. Et moi, quand j'arrive à la maison, j'ai toujours une grosse valise. Alors, les enfants sont toujours très, très intéressés par ma valise. Puis j'ai plein de trucs super intéressants pour les enfants, de la pâte à modeler, des jouets. Déjà là, ils ont de l'intérêt.
Puis même s'ils en ont de la pâte à modeler, c'est pas la leur.
Exactement.
Fait que là, comment attirer?
Tout à fait. Donc oui, les enfants vont participer comme ça. Sinon, mais ça va juste papillonner autour. Et le fait d'avoir des parents qui sont à table, qui parlent d'une situation qui est peut-être problématique, ça va leur susciter certaines réactions. Et moi, je vais être en mesure de les observer. Si j'arrive le soir, alors que généralement, c'est un moment où est-ce que c'est plus critique, mais je vais être en mesure aussi d'observer par la routine. S'il y a un des deux parents qui poursuit la routine pré-dodo, mais je vais être en mesure d'observer aussi ce moment-là. Là.
OK. Est-ce que vous privilégiez que la routine, admettons, pré-dodo soit faite, même si vous êtes là ou comme vous êtes là, c'est un peu comme de la visite, fait qu'on va tasser la routine, puis ou vous préférez que c'est comme d'habitude. Faites comme d'habitude, puis je vais parler avec l'autre parent qui est présent.
Oui, généralement, ça va être ça. Donc, on s'assure de poursuivre, finalement. C'est certain qu'il y a quelqu'un à la maison. Donc, ce sera un peu différent de l'habitude.
Oui.
Par contre, s'il y a deux parents, justement, présents durant la rencontre, bien, il y en a un qui va poursuivre la routine. Puis, justement, je vais peut-être être en mesure d'observer certaines dynamiques, là, durant ma présence.
Est-ce que c'est plus... Là, vous allez faire ça, puis après ça, il y a un diagnostic, mais il y a une constatation qui se fait de comment on fait quoi. Puis, comment vous marchez pour les recommandations? C'est après plusieurs rencontres, après une seule rencontre? Ou...
Généralement, la première rencontre est quand même plus longue que les autres. Donc, on se donne un bon deux heures à peu près pour permettre d'observer la situation de façon globale. Donc, même de regarder les antécédents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont testé comme intervention préalable? S'ils ont rencontré d'autres intervenants, qu'est-ce qui a été travaillé avec ces intervenants-là? Mm-hmm. Pour bien comprendre, puis on va même reculer jusqu'à la petite enfance, même la grossesse, comment ça s'est passé durant la grossesse. Okay. On veut voir vraiment comment c'est développé, le lien d'attachement aussi avec l'enfant, comment est-ce que ça se passe au niveau des relations depuis qu'ils sont tout petits, pour voir, mais est-ce que ça a de l'influence aujourd'hui?
C'est-à-dire, admettons, on prend comme exemple, l'enfant est né, par exemple, de manière précoce. Il y a eu un petit peu plus de demandes de soins. Les parents n'ont pas réagi pareil que s'il était venu à terme. Bien là, le comportement ne sera pas pareil, évidemment, avec l'enfant. Donc, il peut avoir des répercussions plus tard. Mais là, je donne un exemple. Ça pourrait être ça. Il pourrait avoir des répercussions que si, par exemple, le bébé était né à terme.
Les parents n'agiront pas.
Puis le caractère des personnes, vous devez pas gérer, mais vous devez, en bon français, dealer avec ça aussi. Là. Ça fait partie de l'équation.
Ouais.
Comment vous fonctionnez?
Donc, dans la rencontre d'évaluation, on discute, puis on est capable de percevoir finalement avec quel type de personne j'ai affaire. Puis je dois m'adapter. Hein? J'ai un peu le travail de caméléon parce qu'il n'y a pas une famille de pareil. Chaque personne est unique. Leur façon d'intervenir aussi est unique. Donc, je dois m'adapter en fonction de leur contexte familial pour être en mesure par la suite de leur proposer des stratégies qui vont répondre à leurs besoins, puis à leurs intérêts aussi au niveau des parents. Et si j'ai à travailler davantage dans l'individuel, parce qu'on peut m'appeler également pour aider un enfant en particulier à développer certaines compétences, mais on va s'adapter aussi avec le comportement, les intérêts de l'enfant, tout ce qui va le motiver finalement pour l'amener à développer ses compétences nécessaires-là.
Combien de temps que des rencontres se font? Pendant combien de temps on peut faire appel à vous? C'est quoi? C'est 5 rencontres, 2 rencontres, 10 rencontres?
C'est variable. C'est vraiment variable en fonction des besoins des familles. Je vous dirais qu'en moyenne, on peut calculer de 4 à 7 rencontres en moyenne.
Okay.
La première rencontre d'évaluation est suivie rapidement d'une rencontre de suivi, qu'on appelle. Donc, généralement, c'est là que je vais pouvoir leur proposer des stratégies adaptées en fonction de leur situation. La première rencontre, c'est vraiment une rencontre pour déterminer quels sont leurs réels besoins. C'est quoi leurs objectifs? Hein? Souvent, on va m'appeler pour une situation particulière, un symptôme.
Ouais.
Mais au-delà de ce symptôme-là, c'est quoi le besoin? Puis le comportement qui est indésirable par quoi vous voudriez le remplacer? Qu'est-ce que vous voudriez voir à la place? Mm-hmm. Donc, c'est en fonction de cet objectif-là que je vais leur proposer, que je vais leur proposer des stratégies qui sont adaptées. Donc, plusieurs rencontres de suivi peuvent se suivre. Généralement, on parle de 3 à 4 semaines d'intégration entre chacune de ces rencontres de suivi-là pour mm-hmm. leur permettre justement de mettre en application les moyens que les parents auront choisis ou l'enfant aura choisi. Donc, durant cette période-là, on voit si les comportements indésirables diminuent, si l'enfant a développé ses compétences, s'il se sent plus à l'aise, bon, au niveau de l'atmosphère familiale, comment ça se passe. Et bon, ben, lorsqu'on a atteint les objectifs qui auraient été fixés, ben, à ce moment-là, le suivi se termine tout simplement.
Parce que c'est vraiment ce qui est revenu le plus souvent et probablement pas qu'en coaching familial, mais en coaching en général, les gens ont peur d'être attachés à la coach ou au coach, peu importe. Mais là, de vraiment dire, bon, ben écoute, après ça, c'est au besoin. Puis, si, admettons, dans un an, on veut refaire appel à toi, on peut, pour un autre objectif, on peut te rappeler, puis on continue après ça. Le suivi se fait bien, j'imagine.
Tout à fait. Il y a des familles que je suis depuis 4 ans qui ont eu des problématiques particulières.
Mais c'est pas 4 ans soutenu,
c'est
là,
pas c'est 4 ans soutenu. Donc, ça a été une portion, quelques mois. Ça s'est passé, les enfants ont vieilli, les situations évoluent, et à un moment donné, ben, il y a un autre besoin. On se rencontre à nouveau, on fait un petit briefing à savoir où est-ce qu'ils en sont rendus, évidemment, ouais. Parce que les choses changent.
Les enfants grandissent et
évidemment.
Évoluent. Ouais.
Et par la suite, ben, on poursuit un nouveau plan d'action, on met d'autres moyens en place pour atteindre les objectifs, et par la suite, je les laisse aller.
Puis, combien de temps entre les rencontres, pas entre les périodes de rencontres, mais plutôt entre la rencontre numéro 1 et numéro 2, numéro 3, par exemple, c'est quoi, c'est pas aux semaines, ça dépend?
Ça dépend vraiment du besoin. C'est certain okay. que si on est dans une situation qui est critique, qui est urgente, les parents vivent vraiment un grand malaise ou l'enfant vit un grand malaise, mais ça peut être un suivi aux semaines, aux mm-hmm. 2 semaines. Sinon, dans une situation qui est gérable, je vous dirais, oui. les gens vont simplement mettre un plan d'action en cours. Oh. Je vous dirais 3 à 4 semaines généralement, vraiment pour intégrer. Nous, on a comme principe que pour intégrer une nouvelle habitude, donc développer des nouveaux comportements, ça prend un 21 à 30 répétitions, donc un 21 à 30 jours. C'est okay. pour ça que notre barème, c'est un 3 à 4 semaines entre 2 rencontres de suivi.
On va aller en musique et puis au retour, j'aimerais ça savoir pourquoi on vous appelle. Qu'est-ce qui revient le plus souvent, les raisons qu'on vous appelle et les comportements aussi d'enfants, mais comme tu dis, de symptômes. Pour quelles raisons on fait appel à toi? À tout de suite.
Et beaucoup d'espoir. you want. Nous partirons seuls. Nous partirons. Nous partirons.
Louis-Jean Cormier, complot d'enfants. Tiens, j'y étais avec une thématique de thème. Vous êtes toujours au différent, Mélanie Fleurant avec vous, en compagnie de Laurie Boisvert, qui est bachelière en psychoéducation et coach familial pour La Lanterne et qui fait partie aussi du réseau Nanny Secours. On va en parler un peu plus tard dans l'émission de qu'est-ce que c'est que ce réseau-là, où est-ce qu'on peut trouver une foule d'articles, d'outils et un répertoire aussi de coach familial qui va faire que peu importe où vous soyez, où vous êtes au Québec, où vous soyez, ça se dit-tu? Même pas. Où vous êtes au Québec. Mélanie, ton français. Hein? C'est... Mais peu importe où vous êtes, ben justement, vous allez pouvoir avoir ce répertoire-là, entre autres. Laurie Boisvert, bonjour. Et on parlait avant la pause de pourquoi la structure, les rencontres, comment ça se fait, mais pourquoi on fait appel à une coach familiale? Pourquoi on décide de t'appeler pour les... Quelles raisons? C'est-tu, parce que je suis certaine qu'il y a des auditrices, des auditeurs qui nous entendent, qui disent, ben écoute, là, mon petit fait, ou ma petite fait une crise du bacon, j'appellerai pas pour ça. On peut-tu appeler juste pour la crise de bacon? Façon de parler, là, tu sais, on... Parce que ça peut être à différents niveaux. Ça peut être aussi pour différentes raisons que la crise se fait. Mais on peut-tu appeler que pour ça? Pour certains parents, c'est juste une crise, là, puis on l'ignore, puis c'est tout.
Ben oui, pourquoi pas? En fait, les parents vont me contacter parce que leur besoin est différent de l'un à l'autre. Mais si pour eux, c'est un malaise, justement, de gérer ces crises de bacon-là, ça va leur générer justement des doutes, ils ne savent pas trop comment gérer ça. Ben oui, pourquoi pas? On va explorer justement quelles sont les solutions possibles.
C'est quoi la solution? C'est-tu le plus fréquent?
Ça arrive souvent. Les crises de colère, évidemment, ouais. Que c'est un comportement qu'on va voir souvent. Je vous dirais qu'une clientèle de parents qui ont des enfants de 2 ans, 3 ans, la période du Terrible 2, évidemment que...
Ça, on va l'expliquer. Quoi le Terrible 2? Pour ceux qui sont sans enfants et qui connaissent pas le Terrible 2, moi, je le connaissais pas.
Okay.
Moi, j'ai été présente dans la vie de mon fiol quand même les premiers mois, les premières semaines, jusqu'à quand même assez longtemps dans sa vie, comme... pas seconde mère, mais tu sais, j'étais très présente. Là. On pensait même que c'était mon enfant. Mmh. Mais ça ne l'était pas. Mais j'avais ce rôle-là avec lui qui était de... Mais à un moment donné, moi, je ne savais pas. Moi, je ne lisais pas les livres. J'avais 14-15 ans. Je ne lisais pas les livres de maternité parce que ce n'était pas mon enfant. Mais c'est quoi ce Terrible tout-là?
Mais en fait, c'est une période dans le développement normal de l'enfant. Première des choses, c'est normal.
Ça ne doit pas être une lune de miel.
Non, évidemment. C'est une période où est-ce que l'enfant va développer justement la compréhension que c'est pas le prolongement de son parent. Donc, il est un être à part entière.
OK.
Donc, c'est là qu'il va se développer une identité et de dire, ben moi, je peux dire non.
Ah!
Et je peux faire tout seul aussi.
Ah, ben oui.
Je veux développer ma capacité d'être autonome, donc je veux faire des choses tout seul et ça va générer plusieurs frustrations. Parfois, l'enfant voudrait bien, mais il n'a pas la capacité de le faire. Donc, ça le frustre et le parent va réagir à ça, peut contribuer peut-être à la crise. Au niveau du coaching familial, ça va être de voir justement quel est le processus, comment l'accompagnement est fait justement par rapport aux réactions de l'enfant, soit pour faciliter ou parfois contribuer à la crise.
Mm-hmm. Et dans le Terrible 2, après ça, il y a d'autres
petites choses aussi qui arrivent plus fréquemment que t'entends? Quel comportement pour lesquels, ou symptômes, comme tu disais, pour lesquels tu es le plus appelé fréquemment?
On parle beaucoup de problématiques au niveau de la discipline, je vous dirais. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'accompagnement de l'enfant. Ça a vraiment changé depuis peut-être les dernières générations.
Bien, le rôle de l'enfant, on dirait qu'il a beaucoup changé dans les dernières années.
Tout à fait. Et bon, les gens ont été élevés d'une certaine manière, ne veulent peut-être pas reproduire certains comportements, mais il y a des choses qui surgissent malgré tout de nous. Mm-hmm. On l'applique, sachant que c'est pas nécessairement ça qu'on voudrait faire. Donc, c'est de gérer finalement ces contradictions internes-là, comment l'accompagner en fonction de nos réelles valeurs. Et même dans le quotidien, ben, les gens ont différentes écoles de pensée aussi au niveau de la discipline. Donc, de s'arrimer aussi parfois entre parents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner notre enfant? Donc, ça, c'est source de beaucoup de conflits. Et les enfants s'en rendent compte rapidement. Donc, quand il y a des zones grises, les enfants mettent le pied dedans.
Donc, ah oui.
Moins c'est clair, plus les enfants testent. Donc, on va le voir souvent. Donc, question disciplinaire, je vous dirais, à la base, comment élever son enfant, comment interagir avec lui, c'est signe de discorde. Puis, souvent, on m'appelle pour ça.
Ça me fait penser, il y a beaucoup de parents que j'entends autour de moi qui disent « je voulais pas faire comme ma mère, mm-hmm. je suis rendue comme elle, ouais. je me rends compte que je suis comme ma mère ». C'est-tu fréquent? Est-ce qu'il y en a qui disent « peux-tu me déprogrammer ce que j'ai pas aimé? »
Constamment.
Ah oui?
Constamment. Mais je vous dirais que aussi, avant d'avoir des enfants, on a des idéaux.
Ouais. Hein?
Une fois qu'on les a, on se rend compte que, bon, dans le concret, c'est pas nécessairement faisable ou facilement accessible. Donc, on se rend compte que finalement, ma mère faisait ça puis elle avait bien raison. Mm-hmm. Ou pas du tout et je vais modifier mes façons de faire pour que ça me convienne à moi.
Les réseaux sociaux font-tu en sorte que justement les mères se mettent des plafonds là, de une espèce de stress, mais tu sais, des idéaux... inatteignable, pratiquement.
Assurément.
Sauf que sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il y a un beau montage fait?
Tout à fait. Sur les réseaux sociaux, on ne voit que le beau la plupart du temps.
Évidemment.
Donc, tout semble parfait chez l'autre. Et bon, parfois, on va aussi mettre de l'accent sur une façon de faire, donc une façon d'éduquer notre enfant, où est-ce qu'il y a des idéaux qui sont d'une certaine manière. Et de l'autre côté, on va avoir d'autres parents qui vont intervenir de façon complètement différente. Donc, les parents qui vont observer ça au niveau des réseaux sociaux ou du web en général vont être confrontés à différentes écoles de pensée, de se dire « OK, je ne fais pas comme lui. Est-ce que je suis correcte? Puis, je ne fais pas comme lui non plus. Fait que ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que je deal avec ça, finalement? Comment est-ce que j'interviens avec mon enfant pour que ça soit aidant? Est-ce que je suis en train de le scraper? »
C'est une question qu'on me pose
souvent. C'est une crainte, effectivement, qu'on me pose souvent. Est-ce que je vais briser mon enfant si je fais ça?
Mais c'est souvent aussi la peur de ceux qui n'en ont pas. Mm. La peur de scraper quelqu'un.
Ouais.
Le travail en famille, ça ressemble à quoi? Puis... là, on parle un peu des raisons, tout ça. Mais le travail en famille, c'est quoi exactement que tu suggères? Parce que là, OK, là, on parle d'un parent, de deux parents, OK? Il y a les familles aussi monoparentales. Ça, est-ce que tu en rencontres beaucoup?
Oui.
C'est quoi qu'est-ce qui revient le plus souvent?
Évidemment, la question de la discipline, parce que le parent est seul.
Ah oui, aussi.
Donc, comment est-ce que je gère ça, moi, de toutes les côtés?
Là, tu fais le bon cop, bad cop en même
temps. Donc, je peux pas prendre... personne ne peut prendre mon relais quand je suis trop fatiguée, quand je suis trop stressée, quand je suis à bout. Donc, comment est-ce que je gère ça et comment je m'organise? Souvent, des parents monoparentales, c'est plus au niveau de l'organisation. Mm-hmm. Comment est-ce que je peux donner de l'attention à chacun de mes enfants? Comment est-ce que je peux... gérer la préparation des repas, les devoirs, les dodos et tout ça. Comment est-ce que je peux faire en sorte que tout le monde soit... j'ai répondu aux besoins de tout le monde, finalement. Puis que ce soit agréable pour tout le monde, pour pas que j'aie l'impression de courir partout. Mm-hmm. On parle beaucoup d'épuisement parental. Là.
Oui, puis d'épuisement parental, ça m'amène à... les enfants différents, qu'on dit différents, peu importe le diagnostic médical qui vient avec ou non, qu'est-ce que tu amènes comme approche?
peu importe si l'enfant a un diagnostic ou pas, cet enfant-là est un enfant, oui, à la base. OK? Chaque personne a ses ressources, donc on va travailler avec ses ressources. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est bon dans quoi, cet enfant-là? On va mettre la lumière là-dessus pour l'amener à développer d'autres compétences puis s'assurer qu'on ne reste pas étiqueté comme étant un enfant différent.
Mm-hmm. Parce que j'amène ça justement parce que on parlait de fatigue, mm-hmm, et il y a aussi l'épuisement de parce que des fois ça demande plus de soins. Est-ce que tu peux leur amener des solutions aussi au travers ça, de peut-être impliquer d'autres membres de la famille? Est-ce que tu vas vers cette approche-là?
Bien, assurément qu'il faut essayer de voir dans le réseau s'il y a possibilité d'avoir du soutien. Mm-hmm. J'aide les parents à mettre des choses en place qui sont concrètes pour faciliter le quotidien, pour que les enfants peut-être deviennent plus autonomes, évidemment, pour que le parent soit moins épuisé. Donc, comment est-ce qu'on peut préserver le parent? Comment est-ce que, mm-hmm, dans son quotidien, il peut avoir des petits moments aussi pour lui,
ouais,
pour être en mesure de recharger ses batteries?
On va parler, on va aller en pause et puis au retour, j'aimerais ça qu'on parle, qu'on continue un petit peu sur le stress des enfants. Comment peut-être donner des petits trucs pour que justement ce soit un petit peu plus facile pour les enfants qui sont ultra connectés, ultra des agendas de premier ministre, comme j'ai déjà abordé déjà dans l'émission. Une autre année, mais je pense qu'on n'en parle pas assez de ça, des enfants qui ont des horaires surchargés. Et puis, on va parler aussi du réseau Nanny Secours. Je te garde avec moi, puis au retour de pause, on en parle.
CKRL.
Le 17 octobre, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. C'est le moment pour le nouveau gouvernement de passer de la parole aux actes afin d'éliminer la pauvreté. Fini les promesses, on vous a à l'œil. Rassemblons-nous en grand nombre devant l'Assemblée nationale du Québec le 17 octobre 17h pour faire de la lutte à la pauvreté une priorité pour le Québec. Organisé par le collectif de lutte et d'action contre la pauvreté de la région de Québec, le regroupement d'éducation populaire en action communautaire de Québec et Chaudière-Appalaches, le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale et le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses de Québec. Le théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif du Trottoir, présente la pièce « Celle qu'on pointe du doigt ».
Ça se lit pas toujours dans notre face, mais quand on les voit, les criminels à TV, ils ont toutes des faces de pas de bon sens. Des dents qui se peuvent pas, des yeux cross-eyed, ben des crânes de macaque. Quoique je peux comprendre que quand t'as été le dernier à piger dans le sac à face, ça se peut que tu sois prédisposé à vouloir sauter un plomb. Mais moi, je le sais pas ce qui m'a pris.
Celle qu'on pointe du doigt, du 2 au 20 octobre, premieracte.ca.
En octobre, voyez au cinéma Le Clap. Les Abominables Petits Pieds dès le 28 septembre. Venom dès le 5 octobre. Chair de poule 2, l'Halloween hanté dès le 12. La haine qu'on donne dès le 19. Et Maria by Callas dès le 26. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma!
On est de retour aux différents Mélanie Fleurant avec vous pour la dernière partie de l'émission, la dernière demi-heure aux différents CKRL. On parle ce matin avec une coach familiale. Je dis ça avec un grand terme, mais dans le fond, c'est tout simple. Ce que vous faites, vous allez vraiment vous accompagner les familles. Et la coach qu'on a ici en studio, c'est Laurie Boisvert. Bonjour, Laurie.
Bonjour.
On parlait des familles. Là, comme je dis, ça a l'air bien gros, bien big. Hey, je fais affaire avec une coach familiale. Mais en fait, vous êtes là, vous les accompagnez. C'est pas mal plus accessible qu'on pense aussi. Tu voulais apporter des points au niveau des familles, les problématiques des familles. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, justement, parce que c'est toi qui es sur le terrain avec eux. Qu'est-ce que tu avais à ajouter?
En fait, c'est concernant ce qui peut motiver les familles finalement à faire appel à un coach familial. Ce qu'on retrouve souvent, en fait, au niveau des demandes, c'est au niveau des enfants qui s'opposent. On parlait des crises de colère tout à l'heure. Mais l'opposition, on en voit beaucoup. Des enfants qui ont de la difficulté à gérer les émotions, les coachs familiaux sont en mesure de les accompagner là-dedans, de mettre des choses en place pour développer justement leurs compétences pour mieux gérer finalement tout ce qui se passe. Et les parents, comment est-ce qu'ils peuvent mieux les accompagner aussi dans la gestion de ces émotions-là?
Est-ce que tu vois une différence, parce que ça fait quand même quelques années là, où tu fais ça, est-ce que tu vois une différence sur les crises d'opposition, de colère ou de gestion des émotions? C'est plus fréquent aujourd'hui qu'avant, où tu te rends compte que non, finalement, un enfant reste un enfant, peu importe, si, parce qu'on parlait, on a longtemps parlé des enfants rois, par exemple. Est-ce que tu vois qu'il y a une hausse des crises?
Dans ma pratique, c'est souvent pour ça qu'on nous contacte. Donc, c'est difficile de voir est-ce qu'il y a une évolution ou pas. Peut-être. C'est sûr qu'au niveau de l'accompagnement, il y a eu tellement eu, justement, dans les dernières années, des informations contradictoires. Les parents sont un peu perdus là-dedans. Puis le contexte c'est aussi ça. D'aujourd'hui fait en sorte que les parents travaillent beaucoup. Donc, l'encadrement familial est peut-être aussi... peut-être un peu moins d'encadrement, ou en tout cas, c'est plus difficile, en fait, de mettre en application un encadrement qui est stable, qui est constant. Donc, le travail est aussi du côté des parents, là, au niveau de l'accompagnement, tout ça.
Oui, parce que... c'est plus comme avant, où est-ce qu'avant on entendait justement le côté attends que ton père arrive. Il y a une génération qui l'a entendu pas mal, puis je suis sûre qu'il y en a qui partent à rire au bureau ou dans l'auto quand vous m'entendez dire ça, attends que ton père arrive. C'est ça qu'on entendait, mais là on est ailleurs, les parents sont pas mal plus égalitaires qu'avant, où la discipline était plus au niveau du père. Maintenant les deux s'impliquent dans la discipline aussi. Rapidement, parce que là, le temps file, puis j'aimerais ça qu'on ait le temps de parler aussi du réseau Nanny Secours. Qu'est-ce que c'est que ce réseau-là?
À la base, ce réseau-là, c'est un regroupement de coachs familiaux de la francophonie. Donc, c'est des coachs familiaux et des intervenants à domicile dans la francophonie. Donc, on va couvrir pratiquement toute la région de Québec. Puis, il y a une portion aussi de la France qui est desservie par plusieurs intervenants ou coachs. Donc, sur ce site-là, en fait, il y a un moteur de recherche pour trouver le coach familial qui va le convenir finalement à la personne. Donc, en fonction de votre région, vous allez pouvoir voir les coachs ou les intervenants là, qui sont disponibles dans votre territoire, qui pourraient être en mesure de vous accompagner. Puis la chose qui est intéressante là-dedans, c'est que le parent va vraiment pouvoir comparer les différents profils des coachs puis choisir la personne qui lui parle davantage.
Donc, on peut y aller vraiment avec ce qui nous intéresse, pas juste la région, puis dire, bon, ben moi, je suis dans telle région, je vais y aller avec celle qui est à 2 km au lieu de 15 km de chez nous, parce que on peut au moins voir les profils des différentes. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces profils-là?
Donc, on voit la personne probablement qui ira chez vous. Déjà, si sa binette lui vous dit quelque chose, ben, ça va vous donner une chance. Ça va bien, exactement, de voir quelles sont ses expériences de travail, avec quel sujet elle va être à l'aise de travailler aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire du 0-18 ans. Pour ma part, je fais du 0-12 ans. Il y en a certains qui vont faire du 0-5 ans. Donc, en fonction des intérêts et de l'expérience de chacun.
C'est ça, on l'a pas abordé parce que ça m'est vraiment sorti de la tête. Désolée les auditeurs, désolée les différents. Vous accompagnez vraiment, c'est du 0-12 ans, mais il y en a qui vont à l'adolescence aussi.
Oui.
Dans ton cas, toi, c'est 0-12 ans, mais si on veut, admettons, continuer puis rendu à 13 ans, tu nous accompagnes-tu?
J'ai commencé à suivre la famille, évidemment, que je vais aller au niveau
mais
de l'adolescence.
Pars pas,
Non, je les abandonnerai pas, je vais les suivre jusqu'à ce que le besoin ne soit plus présent, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous dirais que c'est plus au niveau de l'expérience de travail, des intérêts aussi, évidemment, que pour ma part, le 0-12, c'est plus mon dada.
OK. Ça nous en dit un petit peu plus. écoute, Laurie, je te garde avec moi. Parce qu'au retour, on va parler avec la... On a parlé justement tantôt des pères, attends que ton père arrive, mais il y a aussi des germaines dans les couples, à ce qui paraîtrait. Tu vas comprendre le lien. Je reçois
Sabrina. Sabrina Brousseau-Arsenault de La Germaine. Et puis avec elle, après la pause musicale, on va parler justement. Elle implique les mamans, les mères entrepreneurs dans son projet. Et puis son projet qui est La Germaine. On en parle avec. Puis je te garde aussi à l'émission. Ça te va?
Oui. À tout de suite.
De te sentir, d'être dans ta peau, nous savons nous déduire au-delà des mots. Tu m'offres tes souvenirs sur ce grand plateau, nous sommes deux à rougir au-delà des mots. Défaut d'un empire, j'ai bâti un radeau. Maintenant, je respire au-delà des mots. Je veux m'appartenir, être mon héros, habiter mes désirs au-delà des mots. Venir sur le même tableau, nos couleurs vivent pâlir au-delà des mots. Défaut de tout dire, je serai un écho, un drapeau à blanchir au-delà.
Berries avec Au-delà des mots. C'est tellement doux, cette chanson-là. Ça fait du bien. Et ce qui fait du bien aussi, ben, c'est les différents. Les différents, ça fait du bien à tous les vendredis. Je vous accompagne, je vous jase de différences. Et puis, entre autres, la semaine prochaine, on va parler avec un détective privé. Manquez pas ça. Ça va être vraiment intéressant, je pense. Un autre sujet intéressant. Mais pour tout de suite, on parle de famille. On a parlé avec la coach familiale que j'ai gardée, Laurie Boisvert, qui est coach familiale et qui est bachelière aussi en psychoéducation et qui fait partie du réseau Nanny Secours. Et j'ajoute à ça le nouveau segment où est-ce qu'on fait, on parle encore un peu plus de comment faire la différence autour de soi. On parle pas juste de je suis la différence, je suis une différente ou je suis indifférent. On va parler de La Germaine avec Sabrina Brousseau-Arsenault. Bonjour Sabrina.
Allô, ça va bien?
Ça va bien toi-même, merci d'être venue au Différent.
Ah, ça me fait plaisir.
Tu accompagnes pas, mais en tout cas, tu donnes un sacré coup de main aux mamans entrepreneurs. Ouais. Ça se peut-tu?
Ben, c'est mon but, en tout cas.
C'est ton but. Qu'est-ce que c'est que La Germaine? J'aimerais qu'on explique un petit peu aux gens qui connaissent pas, justement, La Germaine. Qu'est-ce que c'est?
Ben, en fait, ça, c'est une entreprise pour aider les mamans entrepreneurs justement à mieux concilier travail et famille. Mm-hmm. C'est parti d'une expérience personnelle parce que moi, j'ai trois enfants. Ils sont quand même assez rapprochés. Mon plus vieux, 4 ans, 3 ans et 1 an.
Oh boy, OK, oui. Donc, probablement que tu vas peut-être avoir affaire avec Laurie à côté de toi.
Oui, ben je reconnaissais beaucoup le Terrible 2, mais mon 4 ans est comme Terrible 2 puissance 15, mettons.
Oh boy! Bon, ben on va vous mettre en contact. J'adore ça.
C'est bon.
Donc, la Germaine, c'est parti pour aider les mamans entrepreneurs parce que toi, tu étais une maman entrepreneur.
Oui, bien, c'est ça. J'avais mes enfants à la maison. Mm-hmm. Là, ça fait comme 6 mois, en fait. Ça fait faire un an, je pense, que mes enfants, les deux plus vieux vont à la garderie. Puis mon plus jeune, je le garde encore à la maison.
OK.
Fait que je travaille en même temps.
Oui, bien, on te voit aussi faire des entrevues via ta page Facebook avec lui, ses bras. Lui, ses genoux plutôt, pas ses bras, mais dans les bras et sur les genoux. Donc, comment est venue l'idée, justement?
Ben, en fait, au point de départ, je voulais avoir un espace coworking pour vraiment aider les mamans entrepreneurs parce que, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu des vidéos, mais justement, travailler avec des enfants, puis, tu sais, comme faire la discipline, puis l'encadrement, tu sais, l'enfant va vouloir que tu sois avec lui, puis toi, tu as comme quand même des choses à faire.
Oui.
Fait que c'est comme de... Moi, c'était comme d'aider les mamans, tu sais, justement, à... T'sais, un peu, tu sais, bon, ben, tu vas pouvoir aller jouer avec des enfants qui ont comme toi une maman qui travaille à la maison. Puis, tu sais, moi, je vais pouvoir travailler, voir des mamans qui sont comme moi aussi. Mm-hmm. Puis, c'est aussi le côté culpabilité parce que, veux pas, tu sais, moi, quand je travaille, ben, je me sens mal de travailler. Ouais. Mais quand je suis avec mes enfants, je me dis, ben, est-ce que je serais mieux de travailler sur ma business? Parce que, tu sais, quand on est travailleur autonome, ben, on est autonome à 100%.
Oui, complètement. Je vois Nancy. Voyons. Laurie, je suis en train de te changer de nom. Laurie, justement, comme coach, tu dois l'entendre, ça, la mère qui se sent coupable. Toi, de ton côté, t'es entrepreneur aussi.
Oui, puis j'ai 3 enfants aussi. Donc,
tu te reconnais, je pense.
Tout à fait. Le coaching familial, c'est arrivé dans ma vie, justement, alors que mon fils avait 4 mois. Mon premier fils avait 4 mois. Il est rendu à 7 ans aujourd'hui. Donc, de développer une entreprise avec le bébé... Puis il y en a 2 autres qui ont suivi, donc c'est beaucoup de travail. Puis effectivement, on se sent coupable jusqu'à un certain point parfois de dire, ben là, il faut que je mette du temps sur mon entreprise. Puis c'est pas si facile que
ça.
Il y a des
collations
à donner à travers et des couches à changer.
Ben oui, puis c'est pas une raison que le père est pas impliqué ou qu'il est impliqué ou peu importe. Là, ça a même pas rapport avec ça. C'est vraiment vous en tant que femme puis en tant que maman aussi et entrepreneur en plus. Donc là, tu voyais de ton côté, Sabrina, qu'il y avait une demande pour le coworking parce que justement, est-ce que c'est pour briser aussi l'isolement?
Ben, c'est sûr, tu sais, à un moment donné, t'es tannée de voir tes 4 murs blancs aussi, là.
Ben, déjà, en tant qu'entrepreneur, les 4 murs blancs, t'es vois.
T'es vois longtemps. Ouais, t'es vois tout le temps longtemps. Puis, tu sais, moi, je trouve que les milieux qui existent en ce moment sont comme plus faits, tu sais, pour les bas bruns, pour les vestons cravates, là. Moi, il y en a pas à mon image, je trouve. Ouais, je les aime, les bas bruns, mais tu sais, comme à distance, on va dire.
Mais les espaces, tu te reconnaissais pas, en fait.
Non, mais moi, tu sais, je veux quelque chose de lumineux, je veux quelque chose, tu sais, que je veux aller travailler, mais tu sais, je peux aussi, tu sais, aller prendre une tasse de café puis, tu sais, jaser avec le voisin, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
C'est quelque chose comme ça que je veux mettre à mon image puis que je vais commencer à mettre sur place aussi en janvier 2019, là, en fait. Je vais le faire une fois par semaine pour tester un peu le marché.
Oui, ça serait à Québec, en fait.
Oui, ça va être à Québec.
Pour commencer.
Oui. C'est sûr que je vais à la grandeur du Québec, mais on va commencer par la ville.
Mais justement, qu'est-ce que tu vas offrir au travers ça, à part que, ben, déjà briser l'isolement, je pense que c'est énorme pour les mères entrepreneurs, pour les entrepreneurs à la base, mais les mères entrepreneurs, ça fait encore encore plus de bien, peut-être. Je sais pas, je vis pas cette réalité-là, mais sûrement de ce que je comprends, ce que tu me dis.
Oui, bien, il y a ça, mais aussi, quand t'es maman, en partant, des fois, t'es isolée aussi, là.
OK.
Des fois, même en t'es maman, t'es isolée parce que, veux pas, t'es la routine du train-train quotidien. Mm-hmm. Puis là, t'ajoutes une couche que t'es entrepreneur en plus. Puis souvent, les activités qui sont organisées, c'est des 5 à 7. Mm-hmm. Puis là, tu te dis, ben là, je ferai pas ça parce que là, c'est la routine du dodo. Je le ferai pas mon conjoint avec les 3 enfants, tu sais.
Oui.
Tu sais, puis moi, je me sens mal de le faire parce que moi-même, être seule avec les 3 enfants, des fois, je me tire les cheveux.
Oui, surtout qu'il y en a un qui est rendu au Terrible 4.
Oui, ou à peu près. C'est le fucking 4 de cet âge-là.
Je m'attendais pas à cette réponse-là, mais c'est possible.
C'est un terme presque scientifique.
Ouais,
il s'est rendu ça, oui.
Mais, donc, c'est ça. Et t'offres aussi en même temps des formations au travers la Germaine, tout ça. Qu'est-ce que t'offres?
Ben, ça dépend vraiment. En fait, là, j'essaie d'avoir des journées thématiques le plus possible. La dernière fois, c'était sur le marketing. Fait que, il y avait le marketing en ligne, comment se présenter, comment parler, puis tu sais, que ça soit intéressant parce que je veux pas, tu sais, faut briser la glace, faut se vendre, puis pas avoir l'air d'un vendeur de char qui t'achale, tu sais.
Oh, ouais.
Puis aussi, il y avait aussi comment se présenter en ligne. Mais en ligne aussi, parce que on attend beaucoup, en tout cas, je sais pas les auditeurs, là, mais l'algorithme Facebook, le MIFA, comment le contrer. Fait que c'était, il y avait un atelier là-dessus aussi. Puis moi, j'essaie de faire ça le plus abordable possible aussi, parce que, veux pas, ben, les mamans entrepreneurs, ben, ils ont d'autres dépenses à faire dans la vie, là, je veux dire.
Mais les entrepreneurs, déjà à la base, là, je pense que même moi, en tant qu'entrepreneur, même pas maman entrepreneur, je pense que déjà à la base, je regarde ce que t'offres, puis ça m'intéresserait, là, tu sais. Puis la porte n'est pas fermée. Là,
ben si non, pas je te mettrai pas dehors si tu viens.
Au contraire. Mais justement, c'est assez abordable ce que t'offres, puis t'offres des belles formations, entre autres, il y a la comptabilité,
si ouais, ben en fait, pas. Parce que c'est mon. Ça, j'ai un background en comptabilité.
Donc, c'est pratique.
Oui. Pour moi, pour me calculer mes choses, pis ça. Puis je peux, tu sais, tu veux pas, tu sais, j'essaie de l'introduire un peu dans mes journées, mais tu sais, j'essaie de me distancier un peu de tout ça parce que c'est comme plus vraiment mon dada en ce moment, là.
C'est vraiment d'aider autour de toi les femmes, mamans, entrepreneurs.
Ouais.
Avec Laurie, justement, tu disais tantôt, le changement, est-ce que tu vois ça souvent? Puis peut-être aussi, Sabrina, autant les deux, les changements de carrière pendant les grossesses ou pendant les congés de maternité, il y en a beaucoup, hein?
On dirait qu'il y a une prise de conscience qui se fait pendant le congé de maternité, là. Puis il y a beaucoup de femmes, justement, qui partent puis qui se disent « Bon, ben je vais peut-être vivre de ma passion, faire des bijoux, je vais aller dans les MLM. » Il y en a vraiment beaucoup. Puis ça, je pense que ça explose, là.
Le MLM, c'est énorme, en tout cas, le marketing, le multi-level marketing.
Ouais.
En fait, comme les vendeurs de Mary Kay, Avon, Tupperware ou Arbonne et compagnie, là, c'est ce qu'on appelle pour situer les gens. On en voit beaucoup.
Oui, mais en fait, le congé de maternité qui supposait être un congé où la partie...
Elle est tellement congé. Ça a tellement l'air d'un congé.
Ou la partie avant, où est-ce que la mère est en arrêt de travail, par exemple, ben, on a le temps de réfléchir justement à ce qu'on veut. Et quand on a des enfants, on dirait que notre perception de la vie est différente aussi, de se dire, ben, est-ce que j'ai vraiment le goût de continuer à vivre ça et à donner ça comme exemple à mes enfants, par exemple, des parents qui n'aimaient pas leur travail auparavant, et de dire, ben, maintenant, je vais aller travailler de reculons, mes enfants vont voir ça. Est-ce que j'ai le goût de leur inculquer ça, d'aller travailler alors que j'aime pas ça ou de ne pas vivre de mes passions?
Ouais, donc,
les hormones aussi ont un rôle à jouer là-dedans, sûrement.
Ouais, le 9 à 5 aussi, là, l'espèce de stress d'être tout le temps dans la routine puis de pas voir tes enfants, genre, de les voir une heure par jour, c'était pas pour moi, en tout cas, là, personnellement.
Mais c'est souvent ça, c'est souvent les prises de conscience, c'est ce que je comprends, puis aussi de pas vouloir voir ton enfant une heure par jour, puis de le presser le matin, vite, go, 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 on s'en va à la garderie, ou, tu sais, ils sont tout petits, souvent, ça entre à la garderie, ça commence à quel âge, donc? Vous êtes maman, je vous pose la question, ça commence tout jeune, là.
Ben, généralement, c'est vers 11 mois, 11, 12 mois, mais il y a certaines personnes qui ont des 6 mois de congé maternité,
ben,
donc des enfants entrent à la garderie avant.
Ouais, c'est jeune, fait que c'est l'implication, je pense que c'est là où est-ce que les mères se rendent compte que non, attends, moi, je veux avoir mon rôle de mère. Est-ce que vous avez remarqué que les mères assument plus leur rôle de mère? On dirait qu'on a voulu être la superwoman à un moment donné. Là, on dirait qu'on accepte pleinement le rôle de mère, qu'on revient aux sources. Ça se peut-tu? Voyez-vous ça?
Je pense qu'il y a eu une évolution avec le temps, puis ça a été de deux polarités, en fait. Hein. C'est des gens qui étaient à la maison, qui ont décidé finalement de s'émanciper, d'aller sur le marché du travail. Avant, les femmes étaient uniquement à la maison.
Ouais.
On voulait aller justement explorer le marché du travail, puis là, maintenant, on veut essayer de faire un compromis entre les deux. Mm-hmm. Puis les femmes entrepreneurs essayent justement de jumeler tout ça, de dire que je suis une mère et je suis capable de m'émanciper puis de faire un travail qui me plaît.
Mm-hmm. Ouais. Puis aussi, je voulais amener un dernier point oui. aussi. En fait, justement, quand on est maman entrepreneur, puis mettons qu'on a un conjoint qui est salarié, tu sais, j'enlève rien, c'est super le fun là, d'avoir un conjoint qui travaille aussi, mais il y a comme une compréhension qui n'est pas là de la part du conjoint. Lui, il s'attend que, vu qu'on est à la maison, ben, on va pouvoir faire le ménage, ah oui. on va pouvoir faire les repas, on va pouvoir faire t'sais, toute la même chose qu'on ferait si on ne travaillait pas.
Oui.
Ça, c'est une réalité qu'on ait un conjoint, qu'on ait des enfants ou pas, c'est une réalité de l'entourage immédiat qu'on ne comprenne pas que faut qu'on travaille. Moi, je suis sur Facebook, puis mon chum, il me dit, mais là, arrête de niaiser, là. Mais non, je travaille, mais j'ai l'air de niaiser parce que je
suis. Oui, bien là, sur Facebook, c'est sûr que ça a l'air moins de travailler parce que la majorité du monde vont sur Facebook pour ouais. se désennuyer, mais quand ça devient quand ça fait partie de notre travail, c'est difficile de justifier. C'est vrai, tu amènes un point au niveau des entrepreneurs, puis le fait de l'espace coworking que tu veux faire pour les sortir de l'isolement, justement aussi, ça amène le côté, je suis certaine que tu as pensé à ça aussi, le côté, ben écoute, j'aurais pas le lavage à faire parce que ouais, je suis ici, vois. J'aurais pas le souper, tu changes de décor, là, puis tu t'enlèves parce qu'on se tape sur la tête, veut, veut pas, en tant qu'entrepreneur, si on ne l'a pas fait, le lavage, le ménage, le tout ça, tout okay. ce qui finit en âge. C'est ce que tu as vu, j'imagine.
Oui, ben c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, que, tu sais, justement, les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui se plaignent de ça.
Mm-hmm.
Puis, justement, je vais organiser des samedis entrepreneurs, puis inviter la famille, inviter l'entourage immédiat pour qu'ils voient c'est quoi être entrepreneur, pour qu'ils vous comprennent un peu notre réalité.
Belle initiative.
Je veux dire que s'ils comprennent notre réalité, ben ils veulent pas, la communication va être meilleure, puis les chicanes vont être aussi... Il y en aura peut-être moins.
Ils seront pas meilleurs, les chicanes.
Non, ils seront pas meilleurs, il y en aura plus.
Ben écoute, je vais inviter les gens à aller justement voir pour La Germaine, le site internet La Germaine, lagermaine.ca,
oui.
si je me trompe pas. Sabrina Brousseau-Arsenault, merci beaucoup. Et puis, Laurie Boisvert, si vous avez affaire à avoir une coach familiale, ben écoutez, c'est à Québec. Sinon, ben allez sur le réseau Nanny Secours. Pour le réseau Nanny Secours, c'est nannysecours.com.
Ouais.
Et pour Laurie, ben soit à partir du réseau Nanny qu'on peut te retrouver, ou sinon à partir de la lanterne, lalanterne-coaching.com pour le site internet, et sinon ben il y a aussi la page Facebook. Je vais mettre les liens sur la page Facebook, les différents, pour vos liens à vous deux, mesdames. Merci beaucoup encore d'être passé à l'émission. À une prochaine, puis j'espère qu'on a pu aider au moins les gens, puis on va inviter les gens à aller faire, les mamans entrepreneurs à aller faire du coworking chez vous, Sabrina.
Merci.
Merci à vous. C'est tout pour les différents de cette semaine, et puis la semaine prochaine, ben on jase avec un détective privé. Si vous avez des questions, ben gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire sur la page Facebook Les Différents. À la semaine prochaine. Bye-bye.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
Le plein air, la foule sont parfois de rudes adversaires pour le micro.
CKRL 89.1.
It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, they always make certain things pay.
Québec.
Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours.
Le 17 octobre, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. C'est le moment pour le nouveau gouvernement de passer de la parole aux actes afin d'éliminer la pauvreté. Fini les promesses, on vous a à l'œil. Rassemblons-nous en grand nombre devant l'Assemblée nationale du Québec le 17 octobre 17h pour faire de la lutte à la pauvreté une priorité pour le Québec. Organisé par le Collectif de lutte et d'action contre la pauvreté de la région de Québec, le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire de Québec et Chaudière-Appalaches, le Regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale et le Syndicat industriel des travailleurs et travailleuses de Québec.
Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1.
Vous êtes immigrant et vous cherchez une formation qui vous permettra rapidement d'obtenir un emploi en grande demande? Inscrivez-vous au programme Production et gestion de la qualité en industrie offert à la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. En un an seulement, devenez un opérateur capable de travailler dans une usine de fabrication dans le secteur pharmaceutique, des biotechnologies, des cosmétiques ou des produits alimentaires et contribuez au contrôle de la qualité. Cette formation vous intéresse? Plus de détails sur le site web de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Ensemble, on avance vers de nouveaux projets de vie. La formation continue du Cégep de Sainte-Foy, nous éclairons, vous brillez.
Un hymne à l'amour, à la vie, cette entente instantanée avec quelqu'un, de voir quelqu'un puis de comprendre, sans même nécessairement parler à la personne, mais de juste comprendre l'essence ou l'existence de cette personne-là. Ouais.
On t'appelait l'étranger. Tu parcourais ta rime pour les entendre chanter.